VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui édition du jeudi 31 août 2017, Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, en RDC, retour au calme à Lubumbashi après des échauffourées entre la police et la population. Burkina Faso, le gouvernement en guerre contre les pesticides de mauvaise qualité. C'est une nouvelle victoire pour les forces irakiennes. Elles ont repris au groupe État islamique le territoire de Tal Afar et la localité de la province septentrionale de Ninive. Le point sur la tempête Harvey, ici aux États-Unis. Deux explosions ont été signalées dans une usine chimique du Texas. Retrouvez Yacouba Ouedraogo à la fin de ce journal pour les sports et Dili Diko pour la Minute Éco. Mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, retour au calme à Lubumbashi après des échauffourées entre la police et la population. Au matin, des coups de feu ont été entendus alors que la population protestait contre le meurtre dans la nuit d'un commerçant et sa femme, une énième attaque du genre dans la ville. Témoignage d'un habitant au micro de Narval Mabila, notre correspondant à Lubumbashi.
La population est en furie contre la police et l'armée du fait que la nuit, des hommes armés sont entrés dans des maisons d'habitation et une alimentation. Ils ont tué deux personnes, blessé plusieurs autres et on a fait appel à la police et c'est à la petite matinée vers 6h30 que la police et l'armée s'emmèneront alors que la population était déjà en furie. On accuse la police et l'armée d'être complices de tous ces assaillance de tous ces brigands qui accentuent l'insécurité. C'est chaque matin quand on se réveille, ils ont tué, ils ont cambriolé des maisons et ils sont porteurs d'armes. Et où est-ce que les gens peuvent trouver les armes en dehors de la police et de l'armée? L'insécurité devient de plus en plus accentuée.
Voilà pour le témoignage. J'en profite pour souligner que la montée du crime en milieu urbain, ce sera le sujet, d'à votre avis, à 18h temps universel, dans à peu près une demi-heure. Conséquence des manifestations d'opposition le 19 août au Togo, la justice a condamné 15 personnes à des peines allant de 5 à 9 mois de prison ferme. Les manifestants exigeaient des réformes constitutionnelles. La défense, qui parle d'un procès politique, entend faire appel. Au Cameroun, c'est le bal des libérations pour les personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. Suite à l'ordre d'arrêt des poursuites judiciaires prises hier par le président Paul Biya, ce matin, l'ancien magistrat Paul Aya Abiné a retrouvé la liberté et les autres prévenus comparaissent en ce moment devant le tribunal militaire de Yaoundé. Faisons le point avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Barbe et cheveux plus touffus qu'auparavant, Paul Aya Abiné n'a pas souhaité s'exprimer devant la presse, laissant le soin à l'un de ses avocats de le faire, Maître Bernard Mouna.
Moi, je réjouis parce qu'on a libéré les frères. Nous sommes au début de l'apaisement. Et puis, j'espère que la deuxième étape, c'est le dialogue.
Autre centre d'intérêt de libération des personnes traînées en justice, dans le cadre de la crise anglophone, le tribunal militaire de Yaoundé. Ici, l'avocat international Agbor Bala, l'enseignant Fontaine Niba, l'animateur Mantio Bibiti et 30 personnes ont été convoquées en audience spéciale. Les prévenus sont arrivés depuis 8h temps universel, mais jusqu'à 16h TU, l'audience n'avait pas encore commencé. Au total, 83 personnes ont été interpellées dans les événements de la crise anglophone. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Alassane Ouattara à Paris. Le président ivoirien a rencontré son homologue français Emmanuel Macron pour préparer notamment le sommet Union européenne-Afrique prévu fin novembre à Abidjan. Ce sommet doit jeter les bases de la refondation du partenariat entre nos deux continents, a déclaré à l'issue de la rencontre M. Macron, qui a annoncé en début de semaine la création d'un conseil présidentiel pour l'Afrique. Et les deux chefs d'État ont également abordé la question migratoire et le terrorisme, ainsi que divers projets d'investissement dans les domaines du développement durable, de l'éducation et de la sécurité. Rwanda, où est donc passée l'opposante Diane Rwigara? Selon plusieurs membres de sa famille, l'opposante a été arrêtée par des membres des forces de sécurité. C'est ce qu'affirme un de ses frères, mais la police dément. Diane Ouattara avait tenté en vain de se présenter à l'élection présidentielle du 4 août, remportée par le président sortant, Paul Kagame. Retour sur l'effondrement d'une mine d'or la semaine dernière en Afrique du Sud. Les 5 mineurs portés disparus ont été retrouvés morts. C'est ce qu'annonce la société minière Harmony Gold. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, estime que son arrestation avait pour seul fondement de le punir politiquement. Libéré mi-août, il dénonce un système judiciaire à la solde du parti au pouvoir. Attentat en Algérie, un kamikaze a déclenché ses explosifs en tentant d'entrer dans un bâtiment de la police à 350 km au sud-ouest d'Alger. Deux policiers ont péri, c'est la deuxième tentative d'attaque suicide contre la police depuis le début de l'année. Contestation dans le Rif, dans le nord du Maroc, des commentateurs marocains craignent un enlisement de la crise à Al Hoceima, épicentre du mouvement, après des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme prononcées contre des activistes. Certains ont été jugés coupables d'avoir incendié un bâtiment de la police. Et on termine cette page africaine sur de l'histoire. Des vestiges romains sous la mer ont été découverts cet été par une mission tuniso-italienne. La découverte s'étendant sur 20 hectares à Nabeul en Tunisie confirme, selon les archéologues, qu'un tsunami a englouti une partie de la ville de Néapolis au IVe siècle. Des rues, des monuments et des cuves y ont été trouvées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux explosions ont été signalées ce matin dans une usine chimique du Texas dont les émanations pourraient causer des problèmes de santé après le passage de la tempête Harvey et qui a causé des dégâts très importants et fait au moins 33 morts. Saloua Jafari.
Vers 2h du matin, deux fortes déflagrations. Les services de secours sont dépêchés sur place. Aucune victime à signaler. Mais l'épaisse fumée noire qui s'échappe du site est menaçante. Inondée et privée d'électricité, donc de capacité de réfrigération de ces matériaux hautement inflammables, l'usine du groupe chimique français Arkema, à Crosby, au nord-est de Houston, représentait un risque depuis plusieurs jours. Ce site fabrique des peroxydes organiques, un composé entrant dans la fabrication de plastique et de matériaux pharmaceutiques. Un peu plus tard, le groupe a pressé les personnes restées dans le périmètre de couper leur air conditionné pour éviter une possible exposition aux fumées. Le Texas, déjà meurtri par la découverte des corps de 6 membres d'une même famille, craint que la décrue ne révèle davantage de morts et des dégâts qui prendront des années et des milliards de dollars à réparer.
Comme un jeu de ping-pong, les États-Unis ont donné jusqu'à samedi à la Russie pour fermer son consulat général à San Francisco, ainsi que deux annexes de ses services à Washington et New York. C'est en riposte à la réduction drastique du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le département d'État américain assure vouloir mettre un terme au cercle vicieux qui ne cesse de détériorer les relations entre les États-Unis et la Russie et espère que sa décision n'entraînera pas de nouvelles représailles. C'est une victoire décisive pour les forces irakiennes. Elles ont repris au groupe djihadiste État islamique le territoire de Tal Afar et la totalité de la province septentrionale de Ninive. Blanche Sanou.
L'annonce a été faite par le Premier ministre Adel al-Abadi qui indique que Tal Afar, la résistante, a rejoint Mossoul, la ville libre, et retrouvé sa place dans le territoire national. Cette force irakienne, appuyée par la coalition internationale menée par les États-Unis, a réussi à s'emparer de la zone au terme de 12 jours de combat. Après ce revers, l'EI, qui s'était emparé de près d'un tiers de l'Irak en 2014, ne tient plus qu'une ville au nord de Bagdad et trois localités du désert frontalier de la Syrie, soit 10% du pays selon la coalition. Par ailleurs, elle a félicité les forces irakiennes dans un communiqué, tout en soulignant que la mission n'est pas totalement terminée à Tal Afar. Selon cette coalition, il reste encore un dangereux travail de nettoyage de tous les engins explosifs, ainsi que l'identification des combattants de l'EI en fuite et l'élimination des derniers éléments de résistance djihadiste qui resteraient.
Et dans le même temps, en Russie, les services secrets annoncent l'arrestation de deux membres présumés de l'organisation État islamique qui se préparaient à perpétrer des attaques suicides et à l'arme blanche vendredi à Moscou lors de la rentrée scolaire. La Russie a été menacée à plusieurs reprises par l'État islamique et par la branche syrienne d'Al-Qaïda depuis le début de son intervention militaire en Syrie le 30 septembre 2015. L'Iran respecte bien ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire conclu en 2015 à Vienne. C'est ce qu'indique l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'AIEA atteste que Téhéran n'a pas enrichi d'uranium à des degrés prohibés ni constitué des stocks illégaux d'uranium faiblement enrichi ou d'eau lourde. Un rapport qui intervient avant une intervention du président américain Donald Trump auprès du Congrès en octobre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, dit Lydico, la Minute Éco.
Au Mali, la Banque mondiale débloque 160 millions de francs CFA pour l'installation d'une commission foncière communale dans la ville de Ségou, dans le centre du pays, selon la radio Tamani. Les travaux ont débuté le 22 août. La création de cette commission sécurisera les transactions foncières, rendra l'accès aux ressources plus équitable et permettra également de promouvoir les investissements publics et privés. Une autre de ses responsabilités sera de prévenir et résoudre les conflits fonciers. À son ouverture, la commission foncière offrira ses services aux habitants des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Kaï. Le Togo met en place une assurance maladie gratuite pour 2 millions d'élèves dès la rentrée scolaire 2017, a révélé l'agence Ecofin. Les élèves concernés sont principalement issus de milieux défavorisés. Le président Faure Gnassingbé s'est personnellement impliqué dans la réalisation de ce projet appelé School Assure. Il s'agit d'un pas important pour le Togo qui souhaite mettre en place une couverture maladie universelle. Grâce à ce nouveau programme, le pays atteindra une couverture de 40% de sa population. Au Nigeria, le secteur de l'aéronautique représente 8,2 milliards de dollars du PIB annuel. Selon l'agence Ecofin, le ministre des Transports aériens, Adi Sirika, a expliqué que les revenus du secteur aéronautique proviennent des frais de parking et d'atterrissage, de la taxe sur le carburant et des accords de services bilatéraux aériens. Selon M. Sirika, les aéroports nigérians ont enregistré un trafic de plus de 15 millions de passagers et transporté près de 200 000 tonnes de cargaison en 2016.
On enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Éliminatoire mondial Russie 2018, l'Ouganda surprend l'Égypte et prend la tête du groupe E.
Et oui, leader, avant cette troisième journée, l'Égypte est tombée au Mandela National Stadium de Kampala. Courte victoire des crânes de l'Ouganda 1-0, suffisant pour passer de 4 à 7 points, soit un de plus que les pharaons. Belle opération pour l'Ouganda, pourtant annoncé outsider de cette poule, mais qui conteste le titre de favori attribué à l'Égypte et au Ghana.
À suivre également, Guinée-Conakry, Libye en cours.
Et pour le moment, le Sili national de la Guinée-Conakry mène 2-0 face aux chevaliers de la Méditerranée à quelques 5 minutes de la mi-temps. Les autres équipes du groupe A, la RDC et la Tunisie, 6 unités chacune, s'affronteront demain dans un duel de leaders.
Dans la zone Europe, la France n'a pas le choix. La Suède veut garder la main et le Portugal, lui, veut rester au contact.
La France doit tenir à distance les Pays-Bas pour espérer se qualifier dans le groupe A. Les Bleus, deuxième derrière les Suédois, à la différence de but, ont redonné malgré eux espoir aux Hollandais. Leader du groupe, la Suède aborde le sprint final en ballottage favorable. À la faveur d'une différence de but par rapport à la France, 8 points plus 6, France, Pays-Bas et Bulgarie, Suède, c'est tout à l'heure à 18h, temps universel. 18h45, pardon, temps universel.
Et justement, à la même heure, le Portugal affrontera les îles Féroé. Décidément, on y est. Île Féroé.
Tout à fait. Champion d'Europe en titre, mais deuxième du groupe B, le Portugal cherchera à revenir en tête. Et cela passe par une victoire face aux îles Féroé. Au même moment, la Suisse, leader du groupe, recevra Andorre pour une opération maintien de la première place.
Plus de soucis par contre pour le Japon qui s'est qualifié aujourd'hui dans la zone Asie.
Le Japon est le quatrième pays qualifié pour issue 2018 grâce à sa victoire 2-0 face à l'Australie. Le Japon qui n'a raté aucune... aucune Coupe du Monde, disons, hein, depuis sa première participation en 1998 et qui devient ainsi le quatrième pays qualifié après la Russie, pays hôte, le Brésil et l'Iran.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Nous partons au Congo-Brazzaville. Le vote des sénateurs pour parachever la mise en place de son parlement se tenait aujourd'hui. Si le Parti congolais du travail au pouvoir est encore assuré de rafler la part du lion, les Congolais s'interrogent sur la nécessité de cette institution dans un contexte économique difficile. Le reportage de Ngolan Goussou, notre correspondant.
Le vote de ce jeudi permettra de connaître les 72 élus du Sénat congolais. Avec 11 milliards de francs CFA de budget cette année, le Sénat congolais part ses membres de beaucoup d'autres avantages, dont les émoluments mensuels de plus de 4 millions de francs CFA, ce qui offusque la société civile. Joe Washington Ebina, président de la plateforme FULD.
Le Congolais dépense de l'argent lorsque le besoin ne se présente pas. Le besoin actuel est ailleurs. Le besoin actuel est dans la survie de l'État. Le pays est dans une crise incompréhensible suite à la mauvaise gestion nationale. Il faut que ça change par des signes forts. Nous attendions de voir un gouvernement qui était réduit. Le gouvernement n'a pas été réduit. Cela montre que nous restons dans cette volonté de dépense. Aujourd'hui, le signe fort, ce serait peut-être l'arrêt justement de l'institution qui serait le Sénat. Écoutez, avec tout ce qui se passe depuis de longues années, ce n'est pas en arrêtant 6 mois de salaire des responsables publics que le pays va s'arrêter. Au contraire, ça serait un signe fort. La nation est en train de mourir. On compte les morts à longueur de journée. Les étudiants n'arrivent pas à être payés. Il y a des structures où les salaires n'arrivent pas. Les fonctionnaires ont des problèmes. Parce que je vous assure, on a l'impression qu'au Congo, que les dirigeants sont la priorité de tout. Et cela est une erreur gravissime.
Le Congo-Brazzaville fait face à une sévère crise économique accentuée par une dette de plus de 120% de son produit intérieur brut. L'analyste économique Alphonse Ndongo estime que les dépenses liées au Sénat sont un véritable cachet et un mauvais signal au Fonds monétaire international.
On sait très bien que certains pays réfléchissent déjà de la nécessité ou pas d'avoir un Sénat, notamment le Sénégal. Mais nous, avec ce que nous avons comme difficulté financière, le Sénat me paraît budgétivore. Sûr que le Fonds monétaire international va revoir toutes ces choses. Je ne suis même pas sûr que le budget du Sénat va se situer à 11 milliards. Certainement qu'il pourrait être revu à la baisse. Économiquement, c'est du gâchis.
Mais pourtant, les acteurs politiques tiennent à un parlement bicaméral au Congo. Ludovic Miyuna, candidat du parti PERL aux élections sénatoriales.
Absolument. Le Sénat a sa place. Parce que le Sénat, pour que la voix des collectivités locales puisse à un certain niveau porter au maximum, il faut qu'elle soit portée par des gens qui aient et l'autorité et la sagesse nécessaires pour les poser au niveau du Parlement, mais aussi au niveau du gouvernement. Donc je pense que c'est tout à fait opportun. Je suis absolument serein, mais lorsqu'on se présente à une élection, c'est pour la gagner, et je suis donc certain que je vais gagner.
La problématique sur le rôle du Sénat a rebondi suite à la crise économique, ce qui présage déjà un autre débat sur l'installation des autres institutions prévues par la nouvelle constitution adoptée en 2015. Ngolan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Et Kiabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur les nouveaux décrets proposés par le gouvernement Trump pour expulser les immigrés illégaux. Ils sont plus de 11 millions aux États-Unis. Qui sont ces clandestins? Quels sont leurs recours? Dans quel cas le gouvernement Trump régularise-t-il les sans-papiers? Les États africains collaborent-ils avec les gouvernements américains pour ces expulsions? Quels sont les pays africains les plus mis à mal par les mesures du gouvernement américain? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Et cap sur le Burkina Faso. Le gouvernement en guerre contre les pesticides de mauvaise qualité. Des opérations de contrôle menées dans 4 régions ont permis de saisir plus de 15 tonnes de produits phytosanitaires non autorisés. D'ailleurs, peut-on en tant que paysan se passer des intrants chimiques? Élément de réponse dans ce reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Des attaques de chenilles légionnaires ont failli compromettre la saison agricole au Faso. Ceci expliquant cela, le ministère de l'Agriculture a initié des opérations de contrôle de la qualité des produits phytosanitaires. Moussa Ouattara, le directeur de la protection des végétaux et du conditionnement, fait le bilan des opérations de contrôle.
Nous avons saisi environ 15 tonnes de produits. Au-delà, n'est-ce pas, de cette quantité, c'est l'acte. L'action même de faire ces contrôles-là qui est vraiment important. Parce que les opérateurs vendaient ces produits sans contrôle, sans crainte. Alors, le constat qui découle, n'est-ce pas, de cet exercice est que plus de 70% des produits que nous avons donc rencontrés ne sont pas homologués, donc ne sont pas autorisés à être utilisés au Burkina Faso. Pour le cas précis des chenilles légionnaires, nous avons au niveau du département diffusé une liste des produits qui sont homologués ou bien qui sont efficaces contre cette chenille-là. Mais aujourd'hui, dans les campagnes, les producteurs utilisent tout produit à tout venant, ce qui est très dangereux parce que non seulement ils ne pourront pas détruire les nuisibles pour lesquels, n'est-ce pas, ils sont en train de détruire les produits, mais cela peut développer encore une résistance.
Certes, les pesticides ont l'avantage de réduire la pénibilité du travail des agriculteurs. Mais ils n'ont pas que des avantages. Boniface Tenerbego, agriculteur maraîcher, explique son expérience douloureuse.
Une fois moi j'ai traité ça, je sentais qu'il y a quelque chose. Je ne me sentais pas bien. Donc moi j'ai laissé ça. Moi, traiter avec ceux qui viennent de l'Europe ou c'est quoi là. Vraiment, je ne suis pas là-dedans. Pour traiter avec ça, il faut un équipement complet. Donc j'ai vu les conséquences. Moi-même, je veux pas toucher à ça, mais c'est pas bon. Comme c'est dangereux là, au moment de la formation, là, on nous a montré les boîtes là. Si c'est écrit homologué, ça veut dire que c'est pour ici. Si ce n'est pas homologué seulement, vous laissez. Si on prend le produit que tu donnais là, si tu ne sais pas lire, tu ne vas pas savoir.
Face à cette situation de pesticides à la qualité douteuse, Victor Tchendrebego, plus connu sous le nom Larlé Nava, a son petit secret. On l'écoute.
Je pense qu'au Burkina Faso, il serait difficile d'éviter l'utilisation des intrants chimiques aujourd'hui, mais il faut déjà proposer l'association des intrants organiques avec un peu d'intrants chimiques progressivement jusqu'à avoir 100% d'engrais organiques. Je peux vous dire que moi qui vous parle, j'ai aujourd'hui le secret de faire du compost en 21 jours. Et c'est un compost qui a été réalisé pour la première fois, je crois, au Zimbabwe. Et aussi en 14 jours, on peut faire de l'engrais liquide. Ça, c'est les Américains et qui l'ont fait. C'est un engrais liquide bio. Et le secret est là. Nous allons voir avec les partenaires comment déjà vulgariser cette science-là aux paysans.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les proches de l'opposante rwandaise Diane Shima Rwigara, qui n'avait pas été autorisée à se présenter à la récente présidentielle au Rwanda, affirment être sans nouvelles d'elle depuis mardi dernier. Selon son frère Aristide Rwigara, établi aux États-Unis, sa sœur et quatre autres membres de la famille ont été arrêtés et emmenés mardi vers une destination inconnue après une perquisition policière à leur domicile à Kigali. La police a admis avoir fouillé la résidence dans le cadre d'une enquête sur une affaire d'évasion fiscale et de falsification de documents, mais a catégoriquement démenti avoir procédé à des arrestations. Pour une réaction, Jacques Aristide a joint Aristide Rwigara.
Ils ont été au lieu de travail de Diane. Ils l'ont ramené à la maison en menottes. On leur a tous mis les menottes au poignet dans la maison et ils ont commencé à fouiller la maison entière. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient trouver, y inclut tout l'argent, tous les bijoux.
Comme vous n'êtes pas sur place, comment avez-vous pu confirmer cette information?
Il y a un témoin qui a vu tout ça. Pour le protéger, je ne peux pas dire qui il est, mais je suis certain de l'information.
Avez-vous eu les nouvelles de votre famille depuis mardi?
Non, monsieur, je n'ai pas su les joindre depuis mardi. Leurs téléphones sont coupés. La police a passé toute la journée à fouiller la maison et puis les ont emmenés vers la fin de la journée.
Mais la police rwandaise dément avoir procédé à des arrestations tout en admettant avoir perquisitionné le domicile à Kigali dans le cadre d'une enquête sur une affaire d'évasion fiscale et de contrefaçon. Votre réaction?
La police est en train de mentir. Ils sont en train de mentir. C'est pas la première fois. C'est pas la dernière fois, ils sont en train de mentir. Cette histoire de taxes-là, ils ont inventé ça le jour où ma soeur a lancé son mouvement. C'est une tactique de répression parce que ma soeur les a exposés. Donc, ils sont en train d'essayer de ruiner ma famille. Ça fait des années qu'ils essaient de nous ruiner. Même quand mon père était vivant, ils essaient de prendre tous les business. Et cette histoire de signature, tout le monde sait très bien que ça aussi, c'est totalement inventé. Ma soeur était une critique contre le régime d'une manière qu'on n'a jamais vue au Rwanda. Personne n'a jamais osé parler comme elle au Rwanda. Elle a démasqué leur crime. Et donc, pour freiner sa progression dans la présidence, là, ils ont inventé des crimes, trucs de films, là, des trucs qui n'ont aucun sens, parce qu'elle était très populaire, les gens étaient en train de risquer leur vie pour la suivre. Il ne faut pas que le public croie à leurs mensonges, parce que c'est comme ça qu'ils se permettent de continuer à évoluer. Ils mentent et les gens laissent passer. Il ne faut pas que les gens laissent passer ça.
Donc vous pensez que le motif est purement politique ?
Absolument, absolument, absolument. C'est politique et économique. Ils ont commencé à persécuter mon père il y a des années, des années, des années. Ils ont toujours voulu ce que mon père avait parce que mon père avait beaucoup d'acquis là-bas et ils ont tout fait pour prendre ce qu'il avait. Ils se fatiguent pas, c'est ça, j'en reviens pas. Ils s'arrêteront pas. Et ils sont en train de chanter au monde comment ils sont un gouvernement légitime et comment ils ont accompli des miracles économiques au Rwanda, etc. Et ça suffit cette mascarade là maintenant. Il faut que les gens se réveillent à commencer par réclamer qu'ils relâchent ma famille.
Que comptez-vous faire pour savoir où se trouve votre famille?
Tout ce que je peux faire, c'est répandre la nouvelle autant que possible, mettre la pression sur l'État rwandais pour relâcher ma famille. Et on demande des comptes. Est-ce qu'ils peuvent arrêter de se comporter comme des criminels et relâcher ma famille? On a très peur. J'ai très peur qu'ils vont faire à ma famille ce qu'ils ont fait à mon père. Ce que je fais, c'est appeler à la communauté internationale, à tout le monde, qui avant de cette nouvelle, de mettre la pression sur le régime rwandais. Je crains le pire, là. Je demande à la police de les relâcher immédiatement et d'arrêter d'inventer des histoires qu'il y a un manque de paiement de taxes ou leurs histoires de signatures qu'ils ont inventées pour écarter ma soeur de la candidature présidentielle. Tout ça, c'est et ça fait partie de cette persécution qu'ils ont contre ma famille.
Voilà, c'était Aristide Rwigara, frère de l'opposante rwandaise Diane Rwigara. Il était en ligne de Los Angeles. Au moins 200 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales dans 30 pays. Et selon l'UNICEF, 44 millions n'ont pas plus de 14 ans. Un groupe d'adolescentes kényanes, pour s'opposer à cette pratique archaïque, dite rite de passage, a mis en place une application à la disposition des victimes afin de sauver des vies. Et les précisions de Chérubin Gaby Dorsil.
On les appelle « the restorers », les réparatrices. Cinq adolescentes du Kenya qui ont eu l'idée géniale de développer une application pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Purity Achieng raconte une expérience.
J'ai en tête une excision à laquelle j'ai assisté et qui m'a beaucoup marquée. La douleur de ressentir votre clitoris coupé juste parce que quelqu'un veut que vous passiez par un rite. C'est douloureux et personne ne veut vous écouter. Vous pleurez et vous êtes presque en train de mourir. Mais personne ne s'en préoccupe.
Bien que leur tribu ne pratique pas la mutilation génitale féminine, la MGF, ces adolescentes ont présenté une technologie qu'elles ont développée pour aider les filles concernées à se battre contre cette coutume archaïque qui consiste à enlever tout ou une partie du clitoris. Écoutons Dorcas Owino, leur conseillère et guide.
Que des adolescents puissent identifier les problèmes dans leur environnement et fournir une solution adaptée, c'est vraiment inspirant.
Les adolescentes kenyanes ont participé au Technovation Challenge, un concours des filles du monde entier qui utilisent la technologie pour résoudre les problèmes dans leur communauté. Ivy Wakongu rappelle l'ampleur du problème.
200 millions de filles dans 30 pays sont mutilées, surtout en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Par conséquent, la MJF est une préoccupation mondiale.
J'ai une amie qui a dû abandonner l'école à cause de la mutilation qu'elle avait subie.
Autre témoignage, Purity Achieng.
C'est ce qui m'a amené à travailler sur cette application.
Bien que l'application ait le potentiel de sauver des vies, elle ne fait pas l'unanimité chez les Kenyans, nous dit Dorcas Owino.
Un ancien d'un village a conduit 6 heures jusqu'à l'école des filles pour protester contre l'application.
Cette nouvelle application arrive au moment où certains protestent contre les femmes qui travaillent dans la technologie, pas seulement au Kenya, mais aussi au siège de Google où s'est déroulée la compétition. Le PDG de Google, Sundar Pichai, y a fait une visite improvisée.
Je sais que ce ne sera pas toujours facile. Mais pour les filles qui rêvent de devenir ingénieurs ou entrepreneuses, qui rêvent de créer des choses incroyables, je veux que vous sachiez qu'il y a une place pour vous dans ce secteur.
Les réparatrices n'ont pas gagné la compétition Technovation Challenge, mais elles continueront leur lutte contre la mutilation génitale féminine et espèrent que leur application sera bientôt enregistrée dans Google Play Store.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, Morgane Guerriec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui.